La première des deux nuits cinéma japonais se poursuit sur France Culture en compagnie de Hervé Pichard, responsable des acquisitions et chef de projet des restaurations de films à la Cinémathèque française, et de Pascal-Alex Vincent, réalisateur et enseignant l'histoire du cinéma japonais à la Sorbonne Nouvelle, entre autres. À la Cinémathèque française, depuis septembre dernier jusqu'à fin juin, on peut voyager dans 60 ans d'histoire du cinéma japonais avec l'écran japonais, une programmation à laquelle est associée une exposition. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage, Hervé Pichard, vous qui êtes un des commissaires de cette exposition ?
Oui, alors il faut savoir qu'il y a toujours eu à la Cinémathèque un lien très fort entre cette institution et le Japon et le cinéma japonais. Langlois, le fondateur de la Cinémathèque, avait une fascination pour ce pays et pour ses films et pour surtout ses cinéastes. Et donc, on voulait marquer le coup avec quelques collègues de la Cinémathèque, à savoir Jacques Hérold, qui est le responsable des affiches, Émilie Coquille, qui est en charge de diffuser les films hors les murs, et Françoise Ellemerige, qui est la grande spécialiste des dessins à la Cinémathèque. Et donc, on a voulu insister sur la découverte du cinéma japonais en France à travers finalement les 60 ans de programmation à la Cinémathèque. Évidemment, c'était l'occasion de montrer des documents exceptionnels conservés à la Cinémathèque, comme en premier lieu les dessins d'Akira Kurosawa, des aquarelles de Musitani, qui était le collaborateur de Kenzie Mizoguchi, quelques curiosités aussi comme le jouet optique qui a été fabriqué par Terayama, qui a été offert à Langlois. Des photos triées sur le volet, puisqu'on en a des tonnes à la Cinémathèque, des films de Ozu, de Naruse, etc. Et puis aussi, on a fait une sélection d'affiches. On a énormément d'affiches à la Cinémathèque japonaise. Donc des affiches très originales, par exemple de la société ATG, qui était une société qui a produit des films d'avant-garde, entre autres. Et puis aussi des affiches de films populaires qui sont assez amusantes. Et puis on a aussi des kimonos qui sont des kimonos de films assez emblématiques. Ça a été aussi l'occasion de parler de deux femmes japonaises qui ont contribué à révéler le cinéma japonais dans le monde, à savoir Madame Kawakita et Hiroko Goverse, mais on en parlera peut-être plus tout à l'heure, qui étaient vraiment des véritables ambassadrices. C'était l'occasion aussi donc d'insister sur plusieurs programmations qui ont été faites à la Cinémathèque, à savoir la grande rétrospective sur le cinéma japonais qui a eu lieu au moment où la Cinémathèque a ouvert à Chaillot. Et ça s'est fait donc en collaboration avec Madame Kawakita. C'était l'occasion de montrer 150 films, à peu près, 150 films japonais en France. Mais surtout, ça a permis finalement de se rendre compte que on pouvait difficilement montrer les films japonais à la fois en France, mais aussi au Japon. Il faut savoir qu'en échange, il y avait des films qui étaient montrés, des films français au Japon, et la rétrospective japonaise a été montrée aussi à Tokyo. Donc il y a eu comme ça un échange culturel très fort à ce moment-là. Il y a eu d'autres grands événements à la Cinémathèque. Les 75 ans du cinéma japonais, qui a eu lieu en 71 et 72, j'ai peut-être pas dit en quelle année a eu lieu la première grande rétrospective, qui a lieu en 1963. Voilà, c'est ça. Donc, 75 ans de cinéma japonais en octobre 71 jusqu'à juin 72. Donc, avec énormément de films des premiers temps, des films muets, avec un hommage à Mizoguchi, Ozu, Shindo, Shima, etc. Donc c'était vraiment pour le public l'occasion vraiment de découvrir ce cinéma-là. Et ensuite, beaucoup plus tard, là aussi ça a été une rétrospective monumentale, dans les années 80, en 84-85, une rétrospective qu'on a appelée le cinéma japonais de ses origines à nos jours, avec une première partie qui était des origines jusque dans les années 70. Ensuite, il y a eu divers aspects du cinéma japonais, c'était la deuxième partie, avec des mélodrames, des films de science-fiction, des fantômes, la violence, l'érotisme, plein de thèmes comme ça à bord. De façon très frontale, 200 films qui étaient présentés sur ce sujet-là. Et une troisième partie intitulée « Panorama du cinéma contemporain ». Et là, ça a été évidemment l'occasion de révéler des cinéastes comme Terayama, par exemple, ou Yamada. Évidemment, encore aujourd'hui, depuis que la Cinémathèque est installée dans le nouveau bâtiment à Bercy, on rend encore hommage, évidemment, à des grands réalisateurs ou des sociétés de production. Je peux en citer quelques-uns. Par exemple, on a rendu hommage à la production de la Shochiku en 2006, à la production d'Anikatsu en 2011. Mais évidemment, on a fait de belles rétrospectives de Ozu en 2014, par exemple, ou Oshima en 2015. qui ont évidemment aussi pareil marqué les programmations de la Cinémathèque avec un public très présent et très actif qui se sont vraiment déplacés pour voir tous ces films.
Et puis ça continue donc aujourd'hui avec la programmation que vous avez imaginée, Pascal Alex Vincent, associée à l'exposition L'écran japonais.
Et oui, figurez-vous à la banne que cette programmation de films à la Cinémathèque française à Paris se poursuit tout au long du mois de mai, mais tout simplement parce qu'il y avait eu une première programmation il y a quelques mois, mais toutes les séances étaient complètes. C'était la folie à la Cinémathèque française pour voir ces films japonais en copie 35 mm. Et donc cette programmation est reprise pendant tout le mois de mai avec de nouveaux titres aussi, hein, une trentaine de films à voir. Donc je vous recommande de venir un peu à l'avance, hein, et c'est vraiment voilà les 30 films qu'il faut avoir vus, hein, par les grands cinéastes de l'âge d'or des studios.
Et sur le mois de juin également?
Ça se prolonge en juin, oui, je crois, en effet, parce qu'il y a une demande très forte. Hein, c'est les projections des classiques japonais, la Cinémathèque française, font toujours le plein. Et c'est là qu'il faut les voir, bien sûr, en copie 35, sous-titré français, à Paris, donc.
Hervé Pichard, cette programmation a été l'occasion de faire de nouveaux tirages de grands films et aussi de films mineurs.
Régulièrement, on continue à faire des tirages, évidemment, essentiellement de films français, mais pourquoi pas de films japonais. Donc, on a fait, par exemple, un tirage de Ran de Kurosawa, qui est un film donc de 85, à partir du négatif original, puisque c'est une production française. Et donc, on a pu, grâce à ce tirage en 35 mm, projeter le film, et le film a fait l'ouverture du cycle Kurosawa à la Cinémathèque. Alors là, voilà, il y a toujours cette idée de tirer des copies de grands classiques ou de restaurer aujourd'hui numériquement des grands classiques du cinéma. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est éventuellement de montrer des films qui sont aujourd'hui invisibles parce qu'il n'existe absolument plus de copies. Et c'est ce qu'on a fait lorsqu'on a fait la rétrospective Wakamatsu. On a tiré deux films considérés comme plus montrables, disons, plus projetables, à savoir L'Extase des Anges, qui est un film de 1972, et Le Vagabond du Sexe, un film de 70, qui sont vraiment deux curiosités. Et aujourd'hui, donc, on peut dire à la Cinémathèque qu'on a ces deux copies uniques qui n'existent ni en France ni au Japon, qui sont vraiment des copies rares, des objets insolites. Et voilà, c'est un travail qu'on a fait évidemment avec la fondation Wakamatsu.
Nous nous sommes arrêtés dans la première partie de cette nuit à la Seconde Guerre mondiale. Comment, après-guerre, le cinéma japonais a-t-il pu renaître de ses cendres, ou plutôt dans un pays en cendres, dévasté par les bombardements, par deux bombes atomiques? Comment l'industrie cinématographique s'est-elle alors reconstruite, Pascal Alex Vincent?
Comme vous venez de le dire, à la balle, le Japon est un pays dévasté, en ruine, à genoux, en cendres au lendemain de la guerre, et le Japon va se voir investi par les forces d'occupation américaines. Les Américains vont venir s'installer et ils vont venir avec dans la tête l'idée d'apprendre les vertus de la démocratie au peuple japonais. Et ça passe aussi, comme toujours, par le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma a servi à faire de la propagande dans les années 30 et 40, et maintenant, donc, l'idée, c'est pour les Américains d'apprendre aux studios japonais à faire du cinéma autrement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les forces d'occupation américaines vont contrôler de très près l'industrie du cinéma japonais à partir de 1946. N'oublions pas que les Américains se sont installés au Japon de 1946 à 1952. Et donc, ils vont se rapprocher des studios japonais. Ils vont d'abord d'ailleurs faire des procès, figurez-vous. Certains producteurs ayant fait preuve d'excès de zèle pendant la guerre vont se retrouver en prison l'année 1948, comme par exemple Masaichi Nagata, le grand patron de la Daiei. Il fait une année en prison. Voilà. Et donc, certains producteurs sont inquiétés, mais voilà, l'industrie cinématographique va renaître de ses cendres, encadrée par les forces d'occupation américaines. Ça veut dire concrètement que des gens travaillant pour l'armée et venus d'Hollywood vont prendre leur quartier à Tokyo et se faire traduire du japonais vers l'anglais tous les projets voulus par les studios japonais. Et les Américains vont donc décider de quels films vont se faire et quels films ne vont pas se faire selon toute une série de mesures, de recommandations ou d'interdictions envoyées aux studios. Sachant que par ailleurs, les Américains vont aussi et surtout montrer leurs films. Ils vont venir avec des malles remplies de films tournés avant la guerre ou au début des années 40, comme Citizen Kane, Le Magicien d'Oz, Dont emporte le vent, les films de Frank Capra, certains Walt Disney, etc., qui vont être mis dans toutes les salles du Japon au lendemain de la guerre, en même temps que ces mêmes Américains vont aider les studios japonais à se reconstruire et vont leur donner des consignes pour maintenant refaire du cinéma qui ne soit pas de propagande.
Et l'occupant détruit d'ailleurs beaucoup de films, des copies et aussi des négatifs. Et il édicte des règles auxquelles l'industrie cinématographique doit se conformer. Il est d'ailleurs peut-être utile de rappeler la liste des sujets interdits établie par le général MacArthur. L'éloge du militarisme, de l'idée de revanche, de nationalisme ou de sentiments anti-étrangers, la distorsion de l'histoire, l'approbation de toute discrimination raciale ou religieuse, l'éloge de la loyauté de type féodal, un manque excessif de considération pour la vie humaine, l'approbation directe ou indirecte du suicide, l'approbation de l'oppression ou des traitements dégradants envers les épouses, l'admiration de la cruauté ou de la violence injuste, les opinions antidémocratiques, l'exploitation des enfants et l'opposition à la déclaration de Potsdam ou à tout ordre des forces d'occupation. Au contraire, il est chaudement recommandé de montrer les Japonais se dévouant à la construction d'une nation pacifique, les soldats et les rapatriés en cours de réadaptation à la vie civile, les ouvriers et les paysans en passe de résoudre les problèmes de la vie d'après-guerre, les syndicats en train de s'organiser pacifiquement, le gouvernement s'amendant et prenant en charge de véritables responsabilités politiques, l'exercice de discussions libres au sujet des problèmes de gouvernement, le respect envers chaque être humain et chaque classe de la société, l'observance des droits individuels et des personnages historiques en train de lutter pour la représentation du peuple au sein du gouvernement et pour la liberté. Dans ce contexte, que produit-on alors au Japon ? Qui tourne les films et qui les produit ? Pascal Alex Vincent.
Ce sont les mêmes compagnies, les mêmes studios qui sont là depuis les années 10 et 20 qui vont reprendre du service, mais qui vont devoir suivre à la lettre la liste de consignes et de conseils que vous venez de nous évoquer. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en effet, par exemple, on ne verra plus de films de samouraïs au lendemain de la guerre, on ne verra plus de films se passant dans le Japon féodal. Les forces d'occupation américaines ne veulent plus voir ce cinéma-là parce que pour eux, ça montre un Japon, une image du Japon trop passéiste, et puis les samouraïs, voilà, ces guerriers qui ont un grand sens du sacrifice pour leur clan et donc pour le Japon, ça non. Les Américains ne veulent plus voir ça en 46. Et donc, au contraire, les Américains vont encourager un cinéma se passant dans le Tokyo d'aujourd'hui, ce qui était évoqué dans votre liste, dans le Tokyo de la reconstruction, hein, un Japon en train de se moderniser, en train de renaître de ses cendres. Ils vont encourager aussi le développement des rôles de femmes. Hein, ça, c'est une vraie volonté de l'occupant américain de créer ce star system féminin. Et voilà. Et donc ça veut dire que, en gros, le cinéma japonais d'après-guerre, il est sous le contrôle des forces d'occupation américaines qui vont donc forcément influencer son esthétique. Hein, c'est l'esthétique du cinéma japonais d'après-guerre. Quand je dis esthétique, ça comprend le fond comme la forme. Hein, ce que représente le cinéma japonais d'après-guerre, c'est un cinéma sous influence, mais direct, hein, sous influence contrôlée de l'occupant américain.
Mais certains parviennent tout de même à contourner la censure, comme Mizoguchi avec Les cinq femmes d'Utamaro, par exemple.
Kenji Mizoguchi, au lendemain de la guerre, c'est un cinéaste qui travaille depuis les années 20, qui a dû faire du cinéma de propagande dans les années 30, et vous pouvez imaginer que ces consignes données par les forces d'occupation américaines, ça va lui plaire. C'est-à-dire que lui, qui a été longtemps et pour toujours le cinéaste des femmes, le peintre des femmes, la liste de consignes données par l'occupant américain, ça lui va, et donc il fait un film qui se passe pourtant dans le Japon féodal, qui s'appelle « Cinq femmes autour d'Utamaro », un film tourné en 1946, autour du plus célèbre peintre japonais, Utamaro. Eh bien, voilà, ça se passe certes dans un Japon très ancien, celui que les Américains ne veulent pas voir, mais au contraire, Mizoguchi en profite pour faire un film à la gloire de l'art, à la gloire des femmes, un film avec des scènes même à caractère érotique, une célèbre scène de baignade, hein, de toutes ces naïades qui font tant rêver Utamaro, qui veut les filmer. Et puis, il montre aussi Utamaro, cette anecdote très célèbre où Utamaro est obligé de se voir lié, c'est-à-dire que ses mains sont menottées, ses mains sont liées, puisque ses peintures étaient jugées trop indécentes. Et lorsque Mizoguchi met en scène, au lendemain de la guerre, Cinq femmes autour d'Utamaro et qui nous montre ce peintre qui veut peindre mais qui ne peut pas parce que les autorités lui ont lié les mains, lui ont attaché les mains, comment ne pas voir une métaphore, une image l'image de Mizoguchi lui-même, hein, pendant la guerre, qui a les mains liées et qui est obligé de faire un cinéma qu'il n'aime pas. Donc on peut dire que oui, d'une certaine façon, un film comme « Cinq femmes autour d'Utamaro », parce qu'il se passe dans le Japon féodal, contourne les règles voulues par les forces d'occupation américaines, mais c'était pas tant la représentation du Japon féodal en soi qui leur posait problème, mais certaines valeurs de ce Japon féodal, puisqu'après tout, un film comme Rashomon se passe aussi dans le Japon féodal et a été tourné en 1950 en pleine occupation américaine.
Mais certains films étaient mal vus par le pouvoir japonais pendant la guerre et l'étaient tout autant pendant l'occupation. Par exemple, le film de Kurosawa, Les hommes qui marchèrent sur la queue du tigre, Pascal Alex Vincent.
Alors ça, il y a en effet tout un corpus de films qui posent problème, à la fois pour les forces d'occupation américaines et aux yeux du Japon, hein. Parce que voilà, en effet, ce sont soit des films où les valeurs féodales sont trop mises en avant, soit des films qui sont jugés plus de leur temps, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à ce qui va se tourner à l'époque et qu'on juge inutile d'exploiter. C'est plus ça ce qui se passe avec le film de Kurosawa, c'est que le film leur apparaît trop ressemblé à ce qui se faisait pendant la guerre. Soit, et on s'en souvient peut-être moins, des cinéastes qui vont faire des films jugés trop de gauche. C'est-à-dire que quand elles arrivent au Japon, les forces d'occupation américaines, elles vont aussi évidemment tout faire pour éviter le communisme de s'installer et de trouver preneur, client au Japon. Et donc ça va aussi passer par le cinéma. Ce que vous pouvez imaginer qu'au lendemain de la guerre, il y a du cinéma et des cinéastes qui veulent faire du cinéma communiste et qui vont en faire. Et ceux-là vont aussi avoir des problèmes avec les forces d'occupation américaines, mais pas pour les mêmes raisons, hein, que les autres, hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça va trop loin dans les volontés progressistes de l'occupant américain.
Mais pour autant, les cinéastes japonais n'ont, semble-t-il, pas trop mal vécu les interdits de cette période. Parlant des censeurs américains, Kurosawa disait « Pas un seul d'entre eux ne nous a traités en criminels comme les censeurs japonais l'ont fait. Ayant traversé une époque qui n'avait aucun respect pour la création, je reconnaissais pour la première fois que la liberté de création pouvait exister. »
Tous ces cinéastes, pendant la guerre, ont, comme tout le peuple japonais, ont beaucoup souffert. L'heure était à l'effort de guerre et c'était sans pitié, vraiment. Il fallait faire la guerre et le cinéma devait faire la guerre. Et donc, ce sont vraiment toute une famille de cinéastes, hein, ces cinéastes restés dans les studios, qui doivent faire du cinéma de propagande, qui n'ont aucune liberté et à qui, en effet, on parle mal. Hein, il faut faire du cinéma de propagande, hein, c'est pas du tout détendu. Et c'est vrai que quand les Américains arrivent et s'installent, la façon dont se réorganiser le cinéma pour des artistes comme Mizoguchi, Ozu ou le très jeune Kurosawa, hein, lui c'est la génération suivante, ça va être très étonnant que tout d'un coup ils soient considérés comme des cinéastes et qu'on leur parle comme des artistes.
Et d'ailleurs, cette période de l'après-guerre, de 45 à 55, est-ce la période la plus faste, la plus riche du cinéma japonais ?
On peut considérer que c'est en tout cas la période de la renaissance, du renouveau, et c'est le moment où le cinéma japonais entre dans ce qu'on pourrait appeler un deuxième âge d'or, un âge d'or au moins économique, c'est-à-dire qu'il va se produire de plus en plus de films, hein, puisque les studios sont reconstruits, de nouveaux moyens sont mis à leur disposition, les progrès de la technique arrivent, hein, l'apparition de la couleur, le cinéma est parlant partout maintenant, à partir de 1957 l'apparition du cinémascope et puis dans les années 60 l'apparition de la stéréo. C'est vraiment un moment où le cinéma japonais est en train de muter, de changer, mais tout comme la société japonaise est en train de muter et de changer.
Qu'est-ce qui caractérise le cinéma des quatre grands, Mizoguchi, Ozu, Naruse et Kurosawa, dans leur cinéma d'après-guerre ? Comment les situer, les différencier et qu'est-ce qui les réunit ? Hervé Pichard.
Alors peut-être, hein, pour introduire une notion quand même assez large, parce qu'évidemment, en France, on parle du cinéma japonais comme si il y avait un cinéma japonais, mais évidemment, lorsqu'on se plonge dans le détail sur le style de chacun des grands cinéastes et des grands maîtres, et même des plus modestes, on se rend compte qu'ils ont chacun une vision du cinéma japonais, une vision du monde. Et pour reprendre ceux que vous avez cités, par exemple, Ozu, on pourrait dire que lui, il fait un cinéma extrêmement épuré, un cadrage complètement minimaliste, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'identifie, et c'est comme ça aujourd'hui que finalement Ozu est considéré comme peut-être le plus grand cinéaste japonais. Il n'est pas moins que les autres, mais parce qu'il a une identité qui pourrait correspondre à l'image qu'on se fait du Japon. Par opposition, évidemment, Kurosawa est plutôt un inventeur de formes qui est sous l'influence certainement de l'Occident et voilà, du cinéma aussi soviétique. Et donc là aussi, c'est vraiment étonnant de voir son cinéma, de voir ses obsessions, la façon dont il filme ses acteurs. Hein. Je prends l'exemple, par exemple, du film, un des grands films de Kurosawa qui s'appelle Entre le ciel et l'enfer, donc c'est un film de 63, où là, par exemple, il utilise le cinémascope pour filmer des scènes intimistes. Donc il y a quelque chose de très paradoxal, véritablement très innovant, et donc c'est assez étonnant de voir tous les acteurs autour d'un petit poste du téléphone, bon, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas voilà, il y a vraiment des scènes qu'il faut regarder et admirer, parce que voilà, elles sont vraiment osées. Mizoguchi, pour le coup, je dirais que c'est peut-être le cinéaste du raffinement. Je peux prendre aussi un autre exemple, un film des années 30 qui s'appelle Les Coquelicots, où dans une très belle séquence du film, il y a des effets miroirs, les personnages qui se regardent dans le miroir avec énormément de détails, etc. Il y a là aussi beaucoup de recadrage dans l'espace grâce aux panneaux coulissants. Évidemment, c'est quelque chose que Ozu développera aussi de ce côté, mais pas du tout de la même façon. Mizoguchi travaille énormément un éclairage subtil, des zones, comme ça il travaille par zone, il y a quelque chose d'assez étonnant. Pareil dans les déplacements de caméra, c'est quelque chose qui relève vraiment du raffinement. Naruse, ce qu'on pourrait dire de lui peut-être, c'est que c'est un cinéma plus noir, peut-être plus triste, c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi il a été moins vu en Europe, mais peut-être que là, Pascal, avec Vincent, je vous passe la parole pour parler davantage de ces cinéastes.
Il faut quand même comprendre que ce sont des générations différentes. C'est-à-dire que quand on évoque les quatre grands du cinéma japonais, alors d'abord ce sont les quatre grands parce que ce sont ceux qu'on a découverts en premier. Donc on n'en est qu'au début de l'histoire du cinéma. Hein. Le cinéma est un art très neuf, il n'a que 150 ans. Et donc il faudra voir ce qu'il en reste dans des années. Mais l'idée quand même, c'est que voilà, les quatre supposés grands que sont Ozu, Mizoguchi, Kurosawa et Naruse, on les appelle les quatre grands parce que ce sont ceux qu'on a découverts avant les autres. Mais imaginez que le cinéma japonais produisait des centaines de films par an, et ne serait-ce que l'année 58 voit 600 films se produire. Alors ça veut dire qu'il y a certainement d'autres très grands cinéastes, hein, mais que simplement on ne les connaît pas. Ou
et
pas,
qui sont-ils bien. Alors, les autres?
Ah, mais il y en a des tas. Bon, on a évoqué évidemment Konishikawa, mais il y a aussi évidemment le fameux Kinugasa, il y a aussi Kinoshita, bien sûr, l'auteur du premier film japonais en couleur, qui était aussi un cinéaste formaliste. Il y a Kazuo Mori, grand cinéaste de genre. Il y a Nobuo Nakagawa qui a fait de tant de films de fantômes sublimes. Enfin, c'est un peu sans fin. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réduire, par exemple, l'histoire du cinéma américain à John Ford et Howard Hawks. Loin de là, il y a des tas d'autres cinéastes. Moi, je préfère Stanley Donen à Ford, par exemple. Hein. Bon. Mais voilà, c'est les quatre supposés grands, et ils le sont par ailleurs. Hein. Ce sont de très grands cinéastes, attention. Hein. Ce sont surtout ceux qu'on a découverts en premier. Alors, Naruse, par exemple, c'est le premier cinéaste japonais qu'on a découvert aux États-Unis. C'est la première fois que les Américains ont vu un film japonais. C'était en 1937. C'était un film de Mikio Naruse. Donc, ce sont des cinéastes qui nous sont parvenus avant les autres. Et donc, il y a deux générations. Il y a la génération donc de Ozu, Mizoguchi, Naruse, donc qui ont tous démarré dans le cinéma muet. Et puis, la génération suivante, Kurosawa, qui, lui, n'a jamais tourné de film muet. Hein, et a fait son premier film au milieu des années 40, alors que les autres ont fait leur premier film au milieu des années 20.
Et c'est donc par Kurosawa que l'Occident découvrira le cinéma japonais, grâce au Lion d'Or à Venise en 51, Pascal Alex Vincent.
C'est ça, c'est-à-dire que les forces d'occupation américaines vont encourager les studios japonais à montrer leurs films en Occident, et ça passe par quoi? Ça passe par les festivals. Donc le plus vieux festival de cinéma au monde, c'est Venise, même si voilà, le mois de mai est occupé par Cannes et quel autre grand festival international du cinéma. Et donc voilà, on va encourager les studios à montrer leur cinéma en dehors du Japon, et le premier studio à réagir à cet encouragement, c'est la Daiei. La Daillé, très très grand studio, et La Daillé va vraiment prendre cette consigne avec plaisir, puisque ils vont envoyer plusieurs films aux sélectionneurs de Venise cette année 51, et c'est finalement Rashomon, qui est une production Daillé, qui va être sélectionné pour être montré. Ce sera la première fois, imaginez, en septembre 1951, la première fois qu'un public européen, un public composé de journalistes, de cinéphiles, de festivaliers, va entendre et voir un film japonais parlant. Et c'est un choc. Et le film, au-delà du fait que c'est un chef-d'œuvre, va obtenir le Lion d'Or à Venise, va obtenir l'Oscar du meilleur film étranger, premier Oscar pour un film japonais, va être l'objet d'un remake avec Paul Newman, être l'objet d'une comédie musicale, Rashomon, la comédie musicale. Donc le Rashomon va vraiment ouvrir les portes de l'Occident au cinéma japonais, et c'est un film d'Akira Kurosawa, très très grand cinéaste.
Mais pour l'instant, partons au Festival de Cannes en 1954.
Eh bien, cher Jean Cocteau, vous avez présidé avec une constance et une gentillesse extraordinaire ce nouveau jury du Festival de Cannes, et d'autre part, vous avez donné le ton de ce festival. Vous avez revu deux fois les films, et je voudrais que vous tiriez les conclusions artistiques, techniques et, mettons, sentimentales de cette 7e manifestation cinématographique internationale française.
Je voudrais parler du Grand Prix du Japon. Je sais que le Japon se connaît mal, comme la France se connaît mal, tous les pays se connaissent mal. Et le Japon cherche quelque chose d'autre, peut-être dans une direction de ce qu'on a appelé en Italie le néo-réalisme, n'est-ce pas ? Et il considère le film La Porte de l'Enfer comme un film conventionnel. Mais pour moi, je voulais, et pour mes camarades, nous voulions couronner non pas des recherches qui aboutiront peut-être dans 2 ou 3 ans, ce n'était pas le rôle d'un jury de festival, nous voulions couronner la totalité et la réussite, parfaitement au point de vue technique, c'est admirable, la couleur est admirable, et nous voulions couronner l'aboutissement de toute une tradition japonaise cinématographiquement inscrite, c'est-à-dire toute la grande tradition du no.
Nous venons d'entendre Jean Cocteau au micro de Simone Dubreuil en 1954, en direct du Festival de Cannes. Le film de Teinosuke Kinugasa, La Porte de l'Enfer, venait d'y remporter le Grand Prix. Que peut-on dire de ce film ? Que peut-on dire de Teinosuke Kinugasa, un cinéaste qui a tourné une quantité de films impressionnantes, Pascal-Alex Vincent ?
Kinugasa, c'est un cinéaste qu'on a évoqué parce qu'il a traversé toute l'histoire du cinéma. Il a vu aussi apparaître tous les progrès. Hein. Il a démarré dans le muet, il a vu apparaître la couleur, le scope, etc. À l'époque où il remporte la Porte de l'Enfer, c'est déjà un cinéaste vétéran. Hein. Faut le savoir. Et le film, en effet, a des couleurs absolument incroyables. C'est le premier film en couleur des fameux studios Daillé qui, 3 ans auparavant, ont eu le Lion d'Or à Venise. Donc vous imaginez, c'est quand même le par la Daillé qu'on a découvert le cinéma japonais en France, Daillé qui va signer des accords avec Pathé, Pathé la société française, qui va permettre au public français de découvrir le cinéma japonais en France. Et La Porte de l'Enfer, c'est le 3e plus gros succès du cinéma japonais en France, avec 1,5 million d'entrées sur le territoire français l'année 1954.
Et on parle des couleurs de ce film, et je crois que vous avez une anecdote à ce propos.
À propos des couleurs de La Porte de l'Enfer, ce qui est intéressant, c'est que Kinugasa est allé étudier le procédé Eastman Color à Hollywood. Il est parti plusieurs semaines à Hollywood avec 2 amis techniciens pour étudier cette couleur-là. Mais sauf que le procédé était très cher, et tirer des copies couleurs de ce film était extrêmement cher. Et quand il a fallu distribuer le film en France, Pathé s'est dit, on va plutôt le distribuer en noir et blanc, ça va nous coûter moins cher. Et en version française, donc il faut imaginer que en 54, il y a 1,5 million de Français qui sont allés voir La Porte de l'Enfer au cinéma, mais qu'ils allaient au cinéma, l'affiche de Pathé disait « Les plus belles couleurs du monde », signé Jean Cocteau, qu'on vient d'entendre, mais quand ils sont dans la salle, le film était en noir et blanc. Voilà.
Et de magnifiques costumes portés par les acteurs de La Porte de l'Enfer sont d'ailleurs exposés à la Cinémathèque Hervé Pichard.
Oui, en effet, on a un costume emblématique de La Porte de l'Enfer. Il faut savoir que le personnage principal, la femme très belle qui joue dans le film, ce rôle dramatique, porte en permanence des kimonos orange. Donc on a eu un don assez exceptionnel d'un des kimonos qu'elle porte. C'est la scène d'affrontement à cheval entre les deux rivaux, qui est une scène évidemment très importante du film.
Et quels sont, Pascal-Alex Vincent, les autres grands succès internationaux du cinéma japonais dans les années 50 ?
Si on se place à l'échelle internationale, donc les films qui ont marché en dehors du Japon, bah il y a, c'est à peu près toujours les mêmes cinéastes. C'est évidemment Kenji Mizoguchi qu'on va découvrir en France au début des années 60, hein, avec toute une série de films qui, d'une part, vont sortir en salle, mais être aussi diffusés à la télévision française sur FR3. Et puis évidemment Kurosawa, hein, le plus célébré, le plus aimé. Il faudra par contre attendre la toute fin des années 70 pour découvrir Ozu. Et donc qu'est-ce qu'on voit dans les années 50 en France et le début des années 60, on voit Mizoguchi, Kurosawa, on voit aussi Kaneto Shindo qui est une bête de festival avec des films comme L'île nue ou Nibaba, et on voit les films de Koneshikawa qui est un habitué du festival de Cannes et qui sera d'ailleurs reçu chez Jean Cocteau au Cap Ferret, et qui va avoir Koneshikawa qui va inscrire un lien privilégié avec la France.
Et on peut peut-être, Hervé Pichard, rappeler donc le rôle important de trois personnes, Madame Kawakita, son époux, ainsi que Madame Hiroko Govers. Quel rôle ont joué ces personnes, Hervé Pichard, dès les années 50 d'ailleurs?
Oui, donc elles c'était deux grandes ambassadrices, hein, du cinéma japonais, en France en particulier, hein, très proches d'Henri Langlois toutes les deux. Madame Kawakita, il faut savoir qu'elle fonde avec son mari différentes compagnies cinématographiques, la Towa Film, qui aura comme vocation d'apporter des films européens, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, des films de René Clair, du Vivier ou des films de Renoir. Elle accompagnera aussi Rashomon de Kurosawa à Venise, hein, qui aura donc le Lion d'Or. Et il y aura aussi ce désir de découvrir les films japonais à partir de ce moment-là. D'où l'initiative de faire donc une programmation croisée à la fois à la Cinémathèque et à Tokyo.
Une sorte de troc,
fait. C'est ça, un troc culturel. Donc c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on va commencer à tirer des copies de films japonais, de films de patrimoine, etc. quoi, et qui sera d'ailleurs associé à des films qui étaient à l'époque saisis par les Américains et qui vont rendre aux Japonais. Et donc ce sera d'ailleurs l'origine de la création du Japanese Film Council en 56, hein, qui permettra donc de conserver les archives japonaises. L'autre figure emblématique, c'est Hiroko Govers, qui a été étudiante à Paris dans les années 60. Et elle aidera donc Madame Kawakita pour organiser donc cette première grande rétrospective à la Cinémathèque en 63. Elle l'assistera longuement et puis elle finira par prendre la relève. Et elle programmera à son tour de nombreux films japonais. Alors évidemment tous les grands classiques qu'on connaît, mais aussi les films d'avant-garde qui correspondent plus à sa génération. Toute cette programmation se fera en collaboration avec Henri Langlois. Il faut savoir évidemment que grâce à ces deux femmes, on a récupéré énormément de fonds, hein, et d'objets très beaux qui sont exposés aujourd'hui à la Cinémathèque, hein, comme les dessins d'Akira Kurosawa, le kimono de La Porte de l'Enfer par exemple, les très belles maquettes aussi des décors de Mizutani, qui était le chef décorateur de Kenji Mizoguchi, hein, comme par exemple les très beau dessin de la rue de la Honte. Et on a aussi des affiches des films populaires, comme Pascal Alex Vincent l'a dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de films japonais, des films bis, comme on pourrait les appeler, qui ont eu énormément de succès. Et donc ces films-là, comme par exemple le Géant d'Acier de Shii, qui est un film réalisé en 57, ou le Satellite Mystérieux de Shima, donc qui sont des documents assez uniques dans les collections et qu'on doit à Hiroko Govers. Grâce à elle, on a quand même des fonds assez conséquents. Je voulais peut-être insister sur deux photographies aussi, des photographies de plateau qui sont aussi exposées à la Cinémathèque, comme celle de Nuages flottants de Mikio Naruse, qui ont été offerts aussi par Hiroko Govers.
Et donc, il aura fallu, Pascal Alex Vincent, attendre que les années 60 soient bien engagées pour que les distributeurs français voient dans le cinéma japonais une source de profit possible.
Un peu avant quand même, notamment quand Pathé ouvre des bureaux à Tokyo, hein, Pathé Overseas, ça s'appelle, Pathé au-delà des mers. Et donc Pathé va, à partir de 1952-53, importer copieusement du cinéma japonais, parfois en version française dans toute la France, hein, des films essentiellement de la Daiei, puis un peu de la Toho, hein, un autre studio. Et puis en effet, dans les années 60, on voit arriver, et puis notamment grâce au festival et au ciné-club, le cinéma japonais commence à prendre de la place, hein, dans la cinéma. cinéphilie française, ce qui est merveilleux, avec la découverte des œuvres tardives de Mizoguchi, mais aussi le cinéma populaire de genre, comme les films de grands monstres, les films de Inoshiro Honda, les films de gangsters. Enfin, il y a l'arrivée du cinéma japonais dans les années 60 a correspondu aussi à l'exploitation du cinéma de genre, c'est-à-dire dans les salles de quartier, parfois en double programme, des films à caractère violent ou érotique, qui ont fait la gloire du cinéma japonais dans les années 60 et 70.
Des films de genre et de sous-genre.
Des films de genre et de sous-genre, des films de bagarre, des films érotiques, des films de bikers, des films de gangs de filles, de toutes sortes de films.
Et puis il y a la comédie musicale.
Et puis il y a la comédie musicale.
Oh ! Honto da yo ! Honto da yo ! Okaza !
Las Vegas ! Las Vegas ! やっぱりあったぜラスベガス待っててくれたぜラスベガスレジラスベガスハローハロー、リビエラハロー、レジョンハロー、ルーレット、ヘイゴー、金を使うならラスベガス、稼ぎまくるぜラスベガス、金なんかなくてもラスベガス、ビューティフルワンダフルマーベラスラスベガス。
金だよ、キンキラキンの金、マネーゴールド、キンキラキンの金、金のためなら命もいらねえ、金が世界を回してる、金さえくれりゃキンキラキンの金、イエッソー。金だ金だよ、キンキラキンの金、マネーゴールド、キンキラキンの金、
金ありゃ楽だよ、俺でも主張、
金が世界を回してる、
金ありゃ本当よ、ハウハウハウ。
金だ金だよ、キンキラキンの金、マネーゴールド、キンキラキンの金、
金さえくれりゃ勤めなんかやめちゃう、
金が世界を回してる、
金のないのが尺のため。
ああ、金だ金だよ、キンキラキンの金、あそれ、キンキラキンキラキンキラキンの金、あそれ、
キンキラキン
キラ
キンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキ
ラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキンキラキン。
Nous écoutons un extrait de Mêlée générale à Las Vegas, un film de 1967. La comédie musicale, on le sait trop peu, c'est un des genres très prisés de cette période, Pascal Alex Vincent.
Le cinéma japonais a eu ses comédies musicales, et je ne vous parle pas de quelques films, je vous parle de centaines de films. Là, on vient d'entendre en effet un extrait d'une comédie musicale de la fin des années 60 avec les Crazy Cats. Les Crazy Cats, c'était une troupe d'amuseurs et de chanteurs. C'est leur nom en japonais, hein, Crazy Cats, voilà. Et dans cet épisode, hein, dans ce film, ils partent à Las Vegas, comme on vient de l'entendre. Il y a comme ça, en effet, toute une tradition de la comédie musicale au Japon, mais dès la fin des années 30, hein, ça s'est mis très vite à chanter dans les comédies musicales, dans le cinéma japonais. Le cinéma japonais s'est mis à chanter assez vite après l'apparition du parlant. Et puis, il y a eu un âge d'or, là aussi, de la comédie musicale à partir des années 50. Alors évidemment, ces comédies musicales japonaises empruntent beaucoup aux comédies musicales hollywoodiennes, et elles ont eu leurs stars comme Ibari Mizora, par exemple, 166 films et 166 comédies musicales, hein, qui étaient à la fois chanteuse et actrice, 68 millions d'albums vendus, un musée qui lui est consacré au Japon, voilà. Il y a comme ça, en effet, une longue tradition de la comédie musicale au Japon, en scope, en couleur, avec des chansons très chouettes.
Des films à grand succès ?
Des films à grand succès, beaucoup produits par la Toho, hein, toujours ce studio qui se veut d'envergure internationale. La Toho qui a produit les films des grands Kurosawa et aussi le monstre Godzilla. Voilà, et bien la Toho qui a produit notamment la fameuse mêlée générale à Las Vegas dont on vient d'entendre une des chansons. La Toho, voilà, se veut l'équivalent de la MGM aux États-Unis et produit voilà des comédies musicales avec des numéros de danse et des chansons que tout le monde chante dans les années 50 et 60.
Dans les années 90, Pascal Alex Vincent, vous avez eu vous-même une expérience dans la distribution de films japonais. Est-ce que vous distribuiez des comédies musicales ?
Hélas, il faut imaginer que le cinéma japonais nous est arrivé tardivement et qu'on a déjà une idée à peu près conçue de ce qu'on veut voir d'un film japonais, notamment les premiers films japonais qui nous sont arrivés, c'était des films de samouraï avec du kimono et éventuellement des geishas, c'est-à-dire avec l'idée que finalement le public français n'irait voir le cinéma japonais que comme un cinéma exotique. Et donc ça, il a fallu des années hein, pour qu'on contourne cette idée-là, hein, que le cinéma japonais n'est pas un genre en soi, encore une fois, mais que voilà, il y a tout type de films. Et donc, nous, on n'a pas sorti de comédie musicale, mais...
Je rappelle donc que vous étiez programmateur chez Jean-Pierre Jackson pour la société Elive.
C'est ça, qui est une société qui, dans les années 90, a ouvert la voie du cinéma japonais classique en sortant beaucoup de classiques japonais, à la fois en salle, à la télévision et en vidéo. Et donc, voilà, et l'idée de cette société était plutôt de faire découvrir les grands auteurs, plutôt que de se réduire aux films de sabre. Voilà, les grands auteurs, c'est-à-dire, outre les déjà connus, Ishikawa, Mizoguchi, Ozu, etc. On a montré les films de Kinugasa pour certains, Kobayashi qu'on connaissait déjà un peu, mais aussi des cinéastes moins connus comme Seijun Suzuki, Kazuo Ikehiro et tant d'autres, hein, Mazumura, voilà, tous ces cinéastes essentiels pour comprendre le cinéma japonais des années 50-60, avec l'idée que de la même façon que Hollywood était une industrie qui a produit des auteurs, le cinéma japonais est une industrie qui a aussi produit des auteurs.
Et donc, grâce à la société Elive, le fonds de la Cinémathèque française a pu s'enrichir, Hervé Pichard.
Oui, voilà, considérablement. Grâce à Jean-Pierre Jackson et Pascal Alex Vincent, on a récupéré énormément de très belles copies distribué à l'époque. Hein. Il faut savoir que voilà, le réflexe de la Cinémathèque, c'est de récupérer des films en fin d'exploitation. Parmi les grands films déposés par la société Elive, on trouve des films comme Bonjour ou Carmen revient au pays, premier film en couleur japonais. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres fonds importants aussi, comme celui de Hiroko Govers, on en a parlé, qui a énormément déposé la Cinémathèque française. Il faut savoir aussi que depuis que la société Elive a terminé ses activités, d'autres sociétés ont pris la relève et ont confié leurs films à la Cinémathèque, hein, comme la société Carlotta, comme Tabaza. Et il faut savoir aussi que d'autres films contemporains sont déposés à la Cinémathèque grâce à des sociétés comme Pyramide, qui ont déposé des films de Naomi Kawase, par exemple, et Océan Film qui a déposé des films de Kitano.
Merci Hervé Pichard et Pascal Alex Vincent. Nous retrouverons dans un peu moins de 3 heures, juste avant la fin de cette première nuit cinéma japonais. Et d'ici là, nous aurons écouté Autour de Ran avec le cinéaste Akira Kurosawa, Une nuit magnétique de Serge Toubiana et Hélène Pommier en 1985, Ciné Club Nagisa Oshima par Pascal Lismonde en 1998, et pour finir, le premier des 3 carnets de notes que Philippe Langlois consacrait au compositeur Toru Takemitsu en 2001. La première nuit cinéma japonais se poursuit sur France Culture en compagnie de Hervé Pichard et Pascal Alex Vincent.